En juillet 1884, le drapeau impérial allemand est hissé pour la première fois sur le continent africain. Ce n'est pas en Tanzanie ou en Namibie, mais au Togo. Ce petit protectorat devient le Togoland. Au cours des 30 années de domination coloniale allemande, la vie aurait été relativement paisible dans cette région. C'est du moins l'image que cherche à donner l'administration coloniale qui présente le Togo comme une colonie modèle. Mais c'est un mythe qui sert surtout l'intérêt des administrateurs coloniaux allemands.
Vous êtes à l'écoute du programme « Dans l'ombre de la colonisation allemande ».
Les Européens commerçaient depuis des siècles le long de la côte ouest africaine. Les cartographes européens l'appelaient la côte des esclaves. L'esclavage y a été pratiqué pendant une bonne partie du 19e siècle. Sur place, certains chefs communautaires en tiraient profit. Au moment de la signature d'un traité de protection par le commissaire Gustave Nachtigal et le roi Hervé Mlapatroi, les élites togolaises n'étaient pas intimidées par les Européens. Bien au contraire, elles courtisaient les différentes puissances européennes et tiraient avantage des rivalités qui les opposaient les unes aux autres. Mais la création du protectorat à Lomé marque un point de rupture. Dans la foulée, la côte ouest africaine est coupée en trois par les cartographes européens, délimitant la Gold Coast, la côte de l'or britannique, le Togoland allemand et le Dahomey français. Peu après, les impérialistes allemands lancent les expéditions militaires punitives dans l'arrière-pays, loin des côtes, explique l'historien Jan Le Gall de Berlin post-colonial.
Entre 1884 et 1902, il y a eu 60 expéditions militaires de plus ou moins grande envergure. Certaines d'entre elles étaient de véritables guerres, par exemple entre le royaume de Dagbo et l'Allemagne en 1896. Parfois, il s'agissait de patrouilles envoyées pour des expéditions punitives quand les habitants résistaient.
Pour beaucoup, cette réalité remet en cause l'idée selon laquelle le Togoland allemand était paisible. En ce qui concerne le fonctionnement de la colonie, le professeur Gilbert Higbe Dotse de l'Université de Lomé ne mâche pas ses mots.
Il est question d'une colonie modèle, mais pour qui? De quel point de vue le Togo peut-il être décrit comme une colonie modèle? Du point de vue de l'administration coloniale, ils exploitaient le Togo en tant que colonie, ça ne leur coûtait presque rien. Pour l'Allemagne, puissance coloniale, la balance commerciale était équilibrée. Voilà pourquoi le Togo a été qualifié de colonie modèle. Mais les Togolais travaillaient enchaînés, ils subissaient des châtiments corporels, comme partout ailleurs dans les colonies.
Sur le plan commercial, les colons allemands introduisent l'agriculture de plantation et produisent du café, du coton et du cacao. Ces cultures intensives de rente nécessitent beaucoup de travailleurs. Les populations locales sont forcées à travailler dans des plantations gigantesques pour un salaire dérisoire, voire inexistant. Les produits sont largement exportés, les Allemands accaparent les bénéfices. Pire encore, les petits agriculteurs sont, eux, taxés par l'administration coloniale. Jan Le Gall.
Si vous observez le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, vous constaterez que leur territoire est presque tout en longueur vers l'intérieur des terres. Ce n'est absolument pas représentatif de la réalité de la répartition géographique des communautés avant la colonisation.
Les autorités coloniales s'appuient sur une poignée d'officiers allemands et des troupes mercenaires étrangères africaines. Ils exercent une violence arbitraire, étouffent toute opposition et remplace les structures traditionnelles de pouvoir par des chefs dociles.
Les chefs sont exécutés ou forcés à l'exil. Par exemple, à Mpandu, dans l'actuel Ghana, dans la région de la Volta, le chef d'Agadou, qui s'était montré plutôt amical envers les Allemands, a fini par s'exiler. En son absence, les colons allemands ont réussi à changer toute la cartographie de la ville de Mpandu. Ils ont bouleversé les structures traditionnelles locales. Dans le nord du Togo, les Allemands ont détruit, pillé et massacré les habitants. La station de Mango est devenue le chef-lieu du nord du Togo, alors qu'avant la colonisation, il existait de nombreuses entités politiques différentes vivant plus ou moins harmonieusement les unes avec les autres. Le fait que Mango soit devenu le chef-lieu a complètement détruit ces structures politiques locales.
More or less harmoniously with each other.
Les colons ont neutralisé les structures de pouvoir complexes de l'Afrique de l'Ouest en les réduisant à un système de chefs. Pour illustrer à quel point l'administration coloniale allemande était ignorante et indifférente à ces réalités, le professeur Higbe Dotse explique que le concept même de chef était en fait inexistant dans l'organisation traditionnelle du pouvoir.
Dieses Wort chef.
Ce mot « chef » n'a en fait aucun sens dans la société traditionnelle togolaise. Il faut employer les mots propres à la région pour désigner ces personnes. C'est une institution qui n'a pas d'équivalent dans les langues européennes. L'institution militaire européenne a tout simplement transféré son propre mode d'organisation à la société coloniale. Les autorités traditionnelles ont été absorbées. Les nouveaux chefs, comme on les appelait en allemand, étaient au service de l'administration coloniale. Mais pour nous, ce mot est très dévalorisant.
À l'origine, ce sont les nobles et les rois qui dirigeaient le pays. Le terme de chef n'était pas seulement humiliant, il modifiait aussi fondamentalement les structures du pouvoir togolais.
Un chef, au sens premier du terme, n'est pas un dirigeant militaire. C'est un responsable de la communauté ou quelque chose comme ça. Il y a eu une confusion dans la terminologie, ce qui a modifié la hiérarchie des structures de pouvoir traditionnelles. Néanmoins, les soi-disant chefs, ceux de l'administration coloniale, étaient des serviteurs pour ainsi dire. Ils devaient obéir aux ordres et discipliner la population africaine.
Cette confusion terminologique apparaissait déjà lors de la signature du premier traité de protection au Togo en 1884 par le commissaire allemand Gustav Nachtigal et le roi Ewe Mlapatois, explique Higbe Dotse.
Dans la société traditionnelle, celui qui incarne le pouvoir a des fonctions aussi bien politiques que religieuses et spirituelles. Il ne pouvait pas circuler comme un citoyen ordinaire. Il a donc envoyé Placor, un représentant, pour signer le traité. Placor est ensuite apparu dans les documents comme étant le chef. Ça a entraîné un conflit dans le village, car Placor n'était en fait qu'un messager. Mais aux yeux des colons, il était le chef, le représentant de la communauté.
Les structures de gouvernance traditionnelles ont été durablement détruites. Les effets restent perceptibles dans les luttes de pouvoir qui agitent la société togolaise d'aujourd'hui, explique le professeur Dotse. Si le colonialisme allemand a détruit les structures de pouvoir locales, forcé des milliers de Togolais à travailler dans des plantations pour un revenu dérisoire, voire inexistant, et exploité les ressources naturelles de la région sans la développer de manière significative pour la population locale, comment peut-on prétendre que le Togo était une colonie modèle? Yann Le Gall.
Même les Togolais se souviennent du passé colonial allemand comme une période plutôt paisible. On retient surtout la présence des missions et l'expansion du christianisme. Mais tout cela est le résultat d'une propagande coloniale féroce.
Le professeur Higbe Dotse est encore plus direct.
Une colonie est une colonie. Il n'y a pas de bonne colonie. Les citoyens moyens acceptent ce terme. Il est parfois utilisé pour évoquer les relations actuelles avec la France. Ils veulent défier le colonisateur d'aujourd'hui.
Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne se sont partagés le Togoland. Le Togoland occidental a été absorbé par le Ghana, tandis que le Togoland français a déclaré son indépendance en 1960. Dans l'ombre de la colonisation allemande est un programme de la DW produit avec le soutien du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Mon nom est Nafissa Amadou.